Bonjour Pascal Pic.
Bonsoir.
On dit parfois des abstentionnistes, de ceux qui ne participent pas aux élections, qu'ils votent avec leurs pieds. Ce qui est quelque peu paradoxal d'ailleurs, parce que s'ils se sont abstenus, c'est que ces citoyens n'ont pas marché jusqu'à leur bureau de vote. Les candidats battus lors d'une élection diront facilement que les électeurs ont voté comme des pieds. Ces deux expressions tendent à montrer que les pieds sont des acteurs incontournables du vote. Alors que, sauf cas tout à fait exceptionnel, et sur lequel d'ailleurs le code électoral, à ma connaissance, est muet, on doit glisser son bulletin de vote dans l'urne avec sa main et non pas avec son pied. Il est courant de dire d'un bonimenteur quelconque qu'il nous fait marcher, et vous-même, vous évoquez, page 11 de votre livre, je vous cite, les idéalistes qui se sont toujours pris les pieds, ou en l'occurrence, dites-vous, les idées mal chaussées dans des contraintes matérialistes. Et puis, page 29, vous rappelez l'expression « être bête comme ses pieds ». Mais on aura noté qu'en français, le verbe « marcher » est synonyme de « bien fonctionner », ce qui donne à la marche une valeur éminemment positive. Vous, Pascal Pic, paléo-anthropologue, grand savant et remarquable conteur, passionné aussi par la politique, nous évoquions tout à l'heure en loge ce livre « L'homme est-il un grand singe politique ?» que j'avais eu le plaisir de présenter avec vous en 2011. Et vous attaquez donc d'emblée la relation entre la marche et la pensée dans votre préambule, page 7, puisque vous le titrez « Je marche, donc je pense ». Et je lis un petit passage de la note de votre éditeur en quatrième de couverture. Pascal Pic reprend ici le chemin de la philosophie et s'interroge. Est-ce que je marche, donc je suis ? Ou faut-il dire « je suis, donc je marche ». Je précise aussi au lecteur que ce livre, que je montre à la caméra, mais que l'on voit, est une réédition d'un texte que vous avez produit en 2015. Alors, vous le confessez, page 188 de votre livre, « Je me livre à une démarche de forçat pour nous débarrasser de nos entraves culturelles afin de mieux comprendre les origines de la marche debout ». Et je vous cite encore « c'est un marathon qui m'occupe depuis un quart de siècle. Et avec cette question, est-ce que le mode matérialiste d'interrogation et d'explication du monde des sciences finira par franchir la ligne d'arrivée de notre raison anthropologique ? Alors, ma première question, elle tient à vos deux dédicaces. Pourquoi est-ce que vous avez dédicacé votre ouvrage à votre petit-fils Gabriel ? On le comprend d'ailleurs, page 184, quand on avance dans le livre, et au grand philosophe que l'on a bien connu en Aquitaine, Michel Serres, que vous qualifiez de philosophe marcheur.
Merci pour la question. Bonsoir les sapiens et les sapiens. Et donc, on va commencer par mon petit-fils. Je terminais le livre. Nous habitions au sud de la Picardie. Alors, la Picardie, c'est une grande terre pour la préhistoire, hein, bouchée de pertes. Hein. Et puis également pour le théorie de l'évolution, Jean-Baptiste de Lamarck. Et là, il avait autour de 2 ans de mémoire. Et c'était amusant parce que je terminais, évidemment, de tout relire. Moi, je m'étais, en fait, un peu étalé sur la grande table du salon. Et puis, par la porte-fenêtre, je voyais deux têtes qui attendaient impatiemment. Nous avions un couple de Doberman. Absolument superbe. Et ces deux grands chiens attendaient le petit-fils. Et moi, j'étais absolument fasciné quand même. Et ça dit beaucoup de choses dans la tradition grecque, de la station debout, de la tête au-dessus du corps, etc. Donc là, c'est une grande théorie donc, qui nous vient aussi d'Aristote. Et de fait, là, je voyais ces deux grands chiens qui, assis, étaient plus hauts que mon petit-fils, quand lui était debout. Et mon jeune petit-fils Gabriel sort, les chiens sont contents, il leur dit « assis ». Donc on voit ces deux chiens qui sont plus grands que lui qui s'assoient. Puis ensuite il dit « venez ». Et là je me suis dit « voilà, ce petit homme est bien parti du bon pied avec ses deux amis qui sont les grands chiens, il est déjà leur petit maître ». Donc ça m'avait beaucoup ému. Et au passage j'avais dédicacé Gabriel et mon deuxième petit-fils. La première est une petite fille. Donc sa maman est brésilienne et c'était un livre, c'est le seul livre d'ailleurs qui traite de toutes les biodiversités, qui s'appelle le Darwin à Lévi-Strauss. et Lévi-Strauss, le Brésil, bien sûr. Et j'avais eu le bonheur de dédicacer ce livre à ma petite fille. Pardon, c'est très personnel, mais voilà, voilà, c'est ça qui fait une touche.
Armi Chesser.
Alors, vous savez, on a des conditions de travail, nous, des conférenciers, qui sont très dures. Donc, nous étions aux Canaries, au bord d'une très grande piscine, et nous devions donner chacun à notre tour une très grande conférence dans un contexte économique et social. Et Michel nous cherchait, il arrive, Gascon quand même. Ah, Pascal, t'es là, oui, ça va, tu es content. Alors, on s'embrasse, il connaît très bien mon épouse qui est là. Et alors, ton prochain livre, c'est quoi? Alors, je lui dis, écoute, c'est sur la marche et la pensée. Ah, ça m'intéresse. Mais je lui dis, c'est quand même bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de poètes qui marchent, évidemment, on pense à Rabault, mais il y en a plein d'autres, des écrivains, il y en a beaucoup. Mais je dis, il y a peu de philosophes qui pensent en marchant. Et je n'avais pas été plus loin dans ma question, et il me dit, mais si, attends, Pascal, il y a quand même Kant. Je dis, ouais, mais Kant, il était toujours au même endroit, hein, il tournait autour de la fontaine.
Königsberg,
voilà.
Kaliningrad.
Il réglait l'horloge sur Kant, hein, d'ailleurs. Mmh. Et donc, la seule fois où il a dévié, d'ailleurs, c'est intéressant, je le rappelle, c'est lorsqu'il a voulu acheter le livre, pour le coup, d'un grand philosophe marcheur, qui est Jacques Rousseau. La seule fois où il est sorti de son cycle habituel, c'était pour acheter le livre sur l'origine des inégalités. Alors, il y a Kierkegaard, mais oui, Kierkegaard, c'est un misogyne d'enfer, et qui tournait toujours au même endroit, donc, comme tous les misogynes, bon, ça tourne... Enfin, bref. Et après ça, je lui dis, allez, dis-moi. Alors, il me dit, voilà. Rousseau, on le trouve. Nietzsche, bien sûr.
Rousseau en promenant solitaire.
Solitaire. Et donc, en dehors de la cité, les péripatéticiens, ça vient de Péristyle, donc les péripatéticiens tournaient dans la cité, ils n'allaient jamais dans la nature. Mmh. Hein. Donc, Nietzsche, OK. Après, il faut aller à l'étranger, c'est Thoreau, hein, des grands...
On va y venir.
Grand théoricien.
Grand théoricien, un peu considéré comme un des maîtres des libertariens aujourd'hui.
Absolument.
Un peu à tort.
Pas libertarien, mais libertaire, pas libertarien.
Ouais, un peu à tort, en effet. Bah, mais bon,
ouais. Et puis, évidemment, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, qui avait fait fabriquer un encrier dans le pommeau de sa canne, et dès qu'il voyait quelque chose, il notait. Donc, ça en fait quatre. Et je lui dis, il y en a un cinquième. Alors, Michel cherche. Et je lui dis, ben, c'est toi. Et Michel Serres, effectivement, c'est une grande dette à la fois affective, amicale et puis intellectuelle, hein, puisque je rappelle dans un autre livre, qui est là d'ailleurs, qui s'appelle L'itinéraire d'un enfant des Trente Glorieuses, je sors d'un milieu modeste, comme beaucoup de gens de ma génération, hein, parce que dans les années 60,
le lycée, parent était maraîcher, c'est ça.
Maraîcher, l'école s'ouvre, mais 68, l'université, donc toute une génération s'est engouffrée, évidemment, dans cette ouverture. Et alors, aujourd'hui, des jeunes disent, ouais, vous aviez l'ascenseur. Je rappelle qu'il fallait quand même l'attraper, hein. Non, mais là, en tout cas, je l'ai attrapé. Et j'ai un bac scientifique et technique, ce qui n'est pas honteux. Je voulais être ingénieur. Et puis, j'ai rencontré une petite pépé qui est vraiment super. Elle s'appelle Lucie. Et comme le beau-père était sympa, Yves Coppens, voilà, ça a décidé. Donc, voilà. Et puis après, j'ai rencontré Michel Serres, que je disais, sans avoir tout compris, bien sûr, à l'époque. Pas sûr aujourd'hui que j'ai tout compris. Et un jour, j'avais sorti... une année, deux livres, un sur les grands singes, vous avez qui nous a amené d'ailleurs à nous rencontrer sur l'homme était la grand sage politique,
exactement.
Et un très bel album avec des portraits de singes et de grands singes,
oui.
Que j'avais envoyé à Michel. Et j'avais sorti en même temps, c'était un petit peu le hasard éditorial, un autre livre qui s'appelait donc Nouvelle histoire de l'homme. Donc l'idée c'était un peu comme Lévi-Strauss, d'ailleurs, j'ai emprunté l'idée du titre à Claude Lévi-Strauss qui lui voulait faire que l'ethnographie rentre sur le terrain de l'histoire. Et moi, j'ai fait la même chose avec la paléanthropologie. Voilà, c'était l'idée. Donc, je sors ce livre. J'appelle Michel, parce qu'on était sur une conférence à organiser. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu as reçu mes livres? Ah, il dit, ton livre sur les grands singes, super. Je dis, l'autre. Ah, l'autre, je voulais pas t'en parler. Bon. Ah oui, tu comprends, ton livre a été présenté à l'Académie française pour un prix en histoire. Et je lui dis alors, mais je suis pas d'accord, je lui dis, ça s'arrange pas. Et non, moi je pense qu'il doit être peut-être un prix en philosophie. Mais attends, hein, ça veut pas dire que tu l'as. Hein.
Ouais.
Et j'ai eu le grand prix de philosophie et d'éthique de l'Académie française avec un bac scientifique, c'est quand même pas mal, hein, technique. Donc, et Michel, je vous dois énormément, tous les hommes et les femmes de ma génération aujourd'hui qui sont connus comme grands médiateurs scientifiques ou médiatrices scientifiques, ça tournait autour de Michel. Voilà, donc hommage à Michel Serres.
En faisant référence au livre de Rebecca Solnit,
publié
en 2002 chez Actes Sud, intitulé « L'art de marcher », Vous dites que c'est un des ouvrages les plus érudits sur le sujet. Vous rappelez, je vous cite, qu'entre 1789 et 1989, deux siècles, la marche de l'histoire n'a jamais connu un tel progrès. Celui de la démocratie, de la liberté, dites-vous, mais aussi des sciences de la terre et de la vie, qui bousculent tous les systèmes de pensée traditionnels sur la place de l'homme dans le cosmos. Fin de citation. Pourquoi, à votre avis, expliquez-nous pourquoi cet âge d'or de la marche, là je reprends l'expression de Rebecca Solnit que vous citez, pourquoi est-ce que ce serait achevé avec la fin du XXe siècle et que signifie ce que vous désignez au bas de votre page 9 comme le brusque temps d'arrêt de l'humanité?
C'est en fait un constat qui touche évidemment, vous l'avez rappelé, l'histoire. Donc on pense à la marche des femmes sur Versailles. D'ailleurs, ce qui est très intéressant,
ça c'est 1789-10, enfin,
c'est ouais, ça, donc ça commence là. Et ce qui est intéressant en définitive, alors ça, c'est pas dans mon livre, parce que c'est un ouvrage qui vient d'être édité d'ailleurs, un collectif par les éditions du CNRS et les cahiers Hermès. Mm-hmm. Voilà, c'est sorti il y a quelques mois et qui rappelle un petit peu l'histoire des grandes marches. Et en définitive, les grandes marches qu'ont connues la plupart des personnes ici dans cette salle, qui étaient les grandes marches de manifestation ou autres, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des révoltes spontanées comme la marche des femmes ou autres, mais c'était des moments de colère. Et en fait, les marches de revendication, comme celles qu'on a connues pour l'acquisition des droits civiques en Amérique du Nord, pour les Afro-Américains, etc., en fait, c'est extrêmement récent. Moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que ouais, j'avais confondu les deux, comme la plupart des gens, d'ailleurs, parce que ce n'était pas très clair. Donc, l'histoire des grandes marches pour, en fait, manifester, comme celles qu'on a connues à Paris, nous y étions, d'ailleurs, une fois de plus, après les attentats du Bataclan.
2015.
Et depuis, pourquoi je dis que c'est un point d'arrêt? Parce que je suis absolument effaré, et j'en parle effectivement dans le livre, de constater comment aujourd'hui, marcher est devenu quelque chose de plus en plus rare, notamment pour les jeunes générations. Et ça m'inquiète énormément. Évidemment, on en est à la troisième, quatrième génération qui a toujours vécu dans la cité, en tout cas dans les milieux urbanisés. Mais nous constatons aujourd'hui une détérioration sur l'espérance de vie, sur la pensée, sur l'attitude qui touche ces jeunes générations qui sont complètement connectées. Vous savez, comment on les appelle? Les smombies. C'est-à-dire le smartphone et zombies. Et donc, connectés à leurs écrans, et il n'y a plus, alors on peut le regretter ou pas, mais je suis une génération qui a connu des grands mouvements à la fois socialistes, la grande manifestation pour soutenir Charles de Gaulle après 68, etc. C'était des grands moments incroyables, tout le monde marchait, tout le monde y allait. Et ça, on ne le voit plus aujourd'hui. À part l'événement donc, très dramatique qu'on a connu en 2015, donc, avec l'affaire du Bataclan, on ne voit plus de grandes marches. Et moi, ça me trouble énormément par rapport à ça. Et c'est pour ça que je veux dire que c'est une sorte de point d'arrêt, à la fois sur ce qu'a été toute l'histoire de l'évolution humaine que je raconte par rapport à la marche, mais aussi les progrès des sociétés et des démocraties. Alors, je ne veux pas non plus le dire, voilà, pardon, je ne veux pas être vulgaire, mais c'est quoi ce vieux con baby-boomer qui veut nous raconter? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit quand même d'un constat que font beaucoup les médecins, que font les sociologues, que, par exemple, mes enfants ont marché deux fois moins que ma génération. Ma génération a marché deux fois moins que celle de mes parents. Et celle de mes parents a marché deux fois moins que celle de nos grands-parents. Je ne raconte pas dans ce livre-là, mais dans l'autre, Itinéraire d'un enfant des Trente Glorieuses, ma grand-mère m'a raconté ça, parce qu'on a un petit peu oublié cette histoire-là, comment c'était la misère dans les campagnes. Hein. Et d'ailleurs, ça peut surprendre de constater que les gens de la génération de mes parents n'aimaient pas l'écologie, parce que confondaient écologie et la campagne, mais laver la campagne, c'était très, très dur. Mmh. Et donc, il fallait aller en ville. Et ma grand-mère me racontait qu'elle était partie avec ses... Ils partaient quand même de leur campagne avec les souliers, leurs précieux souliers en cuir, il n'y avait qu'une seule paire attachée par les lacets, et ils avaient des sabots. Et pour ne pas user leurs souliers, avoir des souliers présentables pour être embauchés. Hein. Donc, ça, et donc, ils traversaient la France comme ça.
Vous le dites dans le livre, en partant du Cantal, de la Creuse.
Le Cantal, de la Creuse, c'était l'histoire de beaucoup de familles, la plupart des familles. Ça, on a complètement oublié. Et donc, pour eux, c'était une marche, évidemment, qui n'était pas du genre, une marche pour s'épanouir et pour découvrir, évidemment. C'était aller, comme on disait à l'époque, pour aller gagner sa croûte. Et donc, tout ça, ça se faisait à pied. Alors, on peut, évidemment, on va pas regretter cette période tellement compliquée, parce qu'il y a des progrès sociaux absolument extraordinaires. Mais globalement, aujourd'hui, il me semble qu'on est dans une période où on s'est arrêté de marcher, en tout cas de moins en moins, et il va falloir réfléchir à ce que ça signifie par rapport à notre société et aux enjeux.
Alors, d'avenir. On va y venir, parce que vous abordez vraiment cette question-là dans la deuxième partie de votre, ouais, de votre travail. Tout à l'heure, je vais dire un mot de la grande structure de votre essai, puisqu'en fait, il y a deux grandes parties sur lesquelles je vais revenir, mais toujours dans votre introduction, on a dit que vous avez évoqué la rareté, en quelque sorte, des philosophes marcheurs. Vous dites que chez les écrivains, par contre, ou chez les poètes, c'est beaucoup plus commun. Et en particulier, il y a un auteur qui mérite, dans votre esprit, si j'ai bien compris, une mention spéciale, c'est Honoré de Balzac. Vous dites que son ouverture de la comédie humaine, vous dites que c'est l'équivalent de l'histoire naturelle de Buffon.
Hein, s'inspirer ça, oui.
Il y a vraiment une parenté. Mais vous dites que c'est surtout la théorie de la démarche. Alors, ce n'est pas l'ouvrage le plus connu de Balzac. Hein, c'est publié en 1833. Et vous dites que ce texte, vous le qualifiez de jubilatoire. Alors, il publie ça un an avant le Père Goriot. Hein. Mm-hmm. Et vous dites qu'il a un regard d'anthropologue. Dites-nous ce que découvre en quelque sorte Balzac quand il est installé à la terrasse d'un café du boulevard de Gand à Paris, et en quoi son constat, pour vous, grand scientifique, est-il en quelque sorte déjà scientifique?
Alors, d'abord, première chose...
L'histoire a le mérite d'être contée. Hein.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les écrivains du 19e siècle sont absolument fascinés par les sciences humaines. Ils sont fascinés par la paléontologie de Georges Cuvier. Ils sont fascinés, évidemment, par... Vous savez, comment il s'appelait un grand philosophe de la nature philosophie allemande, le plus grand, et j'ai un lapsus, pardonnez-moi. Et en tout cas, il disait, la grande affaire... Quand Napoléon le rencontre, notre Bonaparte, donc, mais il est Napoléon Ier, il le rencontre et le philosophe lui dit, alors, on en est où dans la grande affaire de l'Europe? Alors, évidemment, Napoléon pense à ses aventures, à déployer la Révolution et ses principes, malheureusement, avec les troupes armées françaises. Et donc, il dit, la grande affaire, c'est la controverse Geoffroy Saint-Hilaire et puis Georges Cuvier à l'Académie française en 1930. C'est vraiment...
1830.
Grande affaire, 1830. Ouais. Et donc là, tous les grands écrivains, notamment Balzac, se disent... fait une magnifique introduction, donc qui touche effectivement à ce qu'on connaît à l'époque, un petit peu des controverses de ce qui n'appelle pas encore les théories d'évolution, mais transformistes. Et son idée est de se dire, ben, je vais quand même aller observer les humains, les gens qui déambulent dans les rues. Les
hommes, alors, il se pose à la terrasse d'un café.
Alors, il s'installe à la terrasse de la café, et puis commence à noter les démarches. Et il a cette phrase, si je mémoire, bonne mémoire. Je plains ces malheureux Parisiens que je vais croquer dans toute la diversité de leur démarche. Et ils s'en amusent. Et c'est vrai que c'est un des grands bonheurs quand même. On s'est baladé à Bordeaux, nous sommes arrivés assez tôt, on s'est mis une terrasse à café. Ben, c'est toujours un spectacle de voir les hommes et les femes déambuler. Chaque démarche est complètement
idiosyncrasique. Est-ce que vous savez que Goffman, le père de l'interactionnisme stratégique, faisait faire ça à ses étudiants aussi. Hein. Il les collait à la terrasse d'un café, il leur demandait de regarder ce qui se passait, de faire des catégories.
C'est un grand moment d'anthropologie. Oui. Les gens ne s'en rendent pas compte.
Alors, on en a dit un mot tout à l'heure, vous avez évoqué son nom, parce que j'ai noté quelque chose de tout à fait passionnant, toujours dans l'introduction. Vous dites que les essayistes, les écrivains, marcheurs, ils sont allés vers l'Ouest. Et tel Henry David Thoreau, donc on en a dit un mot tout à l'heure. Personnage tout à fait étonnant, vous avez eu raison de me corriger, effectivement, libertaire au sens, il ne voulait pas payer ses impôts,
Mais il a l'origine de la, comment on appelle ça, la contestation civile.
Oui, exactement. Hein, voilà. Et alors, vous dites, aussi bien Thoreau que ceux qui ont marché vers Compostelle sont allés vers l'Ouest. Vous dites, aller vers l'Est, c'est revenir vers les origines ou risquer de rencontrer les cavaliers de l'Apocalypse. Ça, c'est page 23. Jamais un conquérant ou un peuple, à l'exception d'Alexandre le Grand, et seulement temporairement, n'a réussi à s'implanter d'Ouest en Est au cours de l'histoire. Alors, on peut tout à fait illustrer votre propos avec des réflexions sur les échecs des conquêtes de Napoléon, d'Hitler, mais ou même des croisés, parce que les croisés, ça n'a pas fonctionné, même si on en fait beaucoup. qu'est-ce que cette histoire de mystique de l'Ouest et vous dites que le chemin invite à se diriger vers le couchant. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça?
Alors, ça fait partie certainement de nos croyances profondes, de nos ontologies premières, donc entre le soleil levant et le soleil couchant. Je n'ai pas, trouvé de texte là-dessus en anthropologie, c'est quand même assez troublant, mais il est vrai que c'est un constat par rapport à ça, et c'est toujours Compostelle, ça va vers l'ouest, nous habitons en Bretagne, c'est le Finistère, voilà, la Galice en Bretagne, c'est effectivement l'autre Finistère, c'est là qu'il y a Compostelle. C'est toujours une réalité étonnante, et puis, bah, évidemment, on connaît la grande histoire de la conquête de l'Ouest en Amérique du Nord. Mais lorsque nous étions une fois à Moscou, on avait visité quelques musées, et c'est intéressant de constater combien la grande Russie, qui est en train déjà de dépérir donc à la fin du XIXe siècle, a envie de lancer sa conquête du grand Est.
Oui, par le transsibérien.
Oui, mais en fait, ils y vont que pour une raison commerciale. Ouais. Il n'y a pas de volonté de découverte ou d'engouement comme le Far West. C'est assez troublant. Mm-hmm. Et en fait, il y aura un personnage extraordinaire qui fait partie de la maison des Romanov. Je ne suis pas sûr que j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Il s'appelait Piotr Kropotkin. Alors, il est à Bordeaux.
Non, vous n'en parlez pas, mais c'est... Effectivement, c'est...
Qui était à Bordeaux, d'ailleurs, avec Élisée Reclus. On y est. Et après la défaite de la guerre de Crimée, l'Empire du Tsar donc, est en pleine crise. Et là, il faut réformer l'Empire. Et Charles Darwin publie L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Ce qui est très, très peu connu à l'université française, et même d'ailleurs dans les universités américaines, c'est qu'en fait, les premières grandes applications, mais modernes, des théories de Charles Darwin, ce sont les Russes.
D'accord.
Ça, c'est très, très peu connu. Et Piotr Kropotkin, donc, est même le grand Tolstoï, hein, serait vraiment très passionné par cela. Il y a toute l'intelligentsia russe qui se passionne pour Darwin. C'est intéressant, Darwin, la sélection naturelle, mais sans l'élimination. C'est-à-dire sans Malthus. C'est intéressant, ça. Donc, il y a une approche culturelle très différente. Mais néanmoins, ils sont dans les concepts. Et Piotr Kropotkin est colonel d'un régiment de tsar et il part vers l'Est avec son Darwin sous le bras. Colonel d'un régiment de Kodak. Alors, ça donnera un film de Kurosawa qui s'appelle Derzu Uzala.
Oui.
Ça inspiré de cela. Mm-hmm. Mais néanmoins, il n'y aura pas de grande poussée comme ça, à la fois mythique, colonialiste, etc., qui restera strictement commercial, mais qui ne rentre pas dans la mythologie. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est intéressant ce qui se passe. La Russie a toujours voulu aller vers l'Ouest. Est Europe et Rennes, est toujours dans la nécessité des moyens vers l'Est. Et là, aujourd'hui, on le voit bien, malheureusement, c'est ce qu'on connaît aussi encore en Europe. Est-ce que la Russie de Poutine, qui veut s'installer en Ukraine, comme on le sait, va finir par établir des politiques qui vont s'ancrer avec la Chine et sur l'Asie centrale? Il y a toujours cette tension. Mais on ne va pas vers l'Est pour des raisons donc, comme à Compostelle, pour des raisons personnelles ou des raisons mythologiques.
Qui est un territoire de relégation, effectivement, exactement l'inverse.
Ouais.
Alors, toujours un peu dans... On tourne autour, non pas du pot, mais de la marche. Vous abordez aussi une autre figure qui est tout à fait passionnante, c'est celle du vagabond. Le vagabond, dont vous dites l'étymologie, vagabundus, c'est l'individu errant. Avec un délit de vagabondage, j'ai revérifié, qui est dans le code pénal en 1810 et qui ne disparaît qu'en 1994, quand même.
Exact.
C'est quand même, bon, voilà. Alors évidemment, ça vous permet de parler d'Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Là, on voit bien que de ce côté-là, au niveau de la marche, c'est assez passionnant. Et vous dites, Arthur Rimbaud a un point commun avec les grands marcheurs du désert. Alors, voyez où je veux en venir. Ça va nous amener, lui, il est du côté d'Aden. Alors, c'est l'actuel territoire des outils. Et en face, camp de l'Afrique, là, on va avoir celle que vous avez rencontrée avec laquelle, la petite Pépé, avec qui vous avez eu votre aventure, la petite Lucie, avec Yves Coppens, qui nous a, je le rappelle, quitté le 22 juin 2022. Alors, pourquoi dites-vous que le monde de la pensée se divise entre ceux qui sont assis, que Nietzsche appelle les culs de plomb, et ceux qui construisent leur pensée par la marche, ce que vous appelez les penseurs aux semelles de vent?
Alors, on va citer un grand philosophe, Michel Audiard, qui disait Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
C'est vrai.
Il a entièrement raison. Bon, c'est là qu'on a intérêt à se mettre debout, vous et moi, quand même.
Oui.
Mais
c'est souvent. Pas extrait du dialogue d'un taxi pour Tobrouk, hein, d'abord, je crois.
Mais au début, je cite effectivement la différence entre Montaigne et Descartes. Mmh. Descartes qui, pour remercier Dieu de lui avoir inspiré la méthode, décide de faire un pèlerinage à Rome. Et là, il dit « Ne rien ne pourra me dévier de mon chemin ». Alors que
l'autre, il est
alors
en bas.
Montaigne, voilà, Montesquieu aussi, d'une certaine manière, etc. Et donc, c'est ça, ce sont toujours ces capacités de s'étonner, de prendre des chemins auxquels on n'avait pas pensé. Et donc là, ça fait vraiment une énorme différence. Ce qui veut dire également, c'est la capacité de rencontrer les personnes, les autres cultures ou pas. Quand vous avez un point complètement fixé, vous ne voyez pas ce qui se passe à gauche et à droite de votre chemin, et encore moins en arrière. Donc, voilà, par rapport à cela, ce que je voulais évoquer. Et puis, on sait très bien... Alors, je ne cite pas dans le livre, mais c'est Paul Auster. Donc, parce que ça, cet auteur merveilleux américain contemporain, bien sûr, qui continue toujours à magnifiquement publier. C'est le mythe de la page blanche des auteurs. Tous les auteurs, quand ça bloque, ça sert à rien de s'énerver sur la page. Vous posez, vous allez marcher avec votre compagne, vos amis, votre chien, etc. Et vous revenez et tout est résolu. Donc, ou la plupart du temps, c'est en voie de résolution. Donc, c'est ça, effectivement. Et d'ailleurs, je dois remercier les philosophes. Hein, c'est François Gros, donc un grand philosophe spécialiste quand même de Michel Foucault. Mais quand même, que lorsqu'il a écrit son livre « Marcher, une philosophie », ça a été vraiment une grande ouverture. Hein. Et moi, ça m'a permis, effectivement, de retravailler cette idée-là de la marche, comment elle a été... constitutive de ce qui fait les origines et surtout l'aventure de l'humanité. Alors que lorsque je suis rentré en paléanthropologie, il y a maintenant une quarantaine d'années tout de même, c'était avant tout le cerveau. Alors c'était quoi ce qu'on voit encore dans des films hein. Vous avez une espèce... Alors je le fais parce que c'est quand même trop drôle. Vous avez un grand singe à moitié redressé qui ressemble à un chimpanzé. Je rappelle que les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres. Les pauvres, on va pas leur mettre ça sur le dos quand même. Et là, il est la savane devant lui et la forêt dans le dos. Donc, ça me rappelle Pierre Dac qui disait cet homme a l'avenir devant lui, mais s'il se retourne, il l'aura dans le dos.
Ce que vous dites dans le livre,
oui. Ouais, il y a 6 millions d'années, une espèce de grand singe comme ça, d'un seul coup, la savane, et il se redresse. Voilà. Parce que c'est le cerveau qui l'emmène. D'ailleurs, une caricature que je rappelle de Darwin qui est intéressante, on le voit comme ça, une espèce de grand singe à moitié redressé, avec un gros cerveau. Donc, on pensait, évidemment, c'est toute notre tradition. Philosophique et théologique qui dit que c'est le cerveau avant tout et puis la matérialité, le corps, les pieds hein, qui sont près du sol. Ça, c'est toute une représentation que nous avons péjorative d'ailleurs, hiérarchique du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, tout ce qui était près du sol était plus péjoratif que ce qui était évidemment près du ciel. D'où les marcheurs du désert. Le désert, effectivement, Vernon en parlait très bien, mais ça fait plus d'un siècle. C'était quoi? C'était qu'effectivement, les marcheurs du désert, entre le sol et le ciel, il n'y a rien. Donc, on est directement en contact, évidemment, avec les cieux. Donc, les grands monothéismes, évidemment, sont nés des marcheurs du désert. Ça pouvait pas naître dans les forêts du monde celte ou du monde des Vikings.
Alors, deux grandes parties. Donc, la première, qui s'intéresse aux mythes, aux représentations, essaye de répondre à la question pourquoi l'homme marche, le bipède marche-t-il debout, hein, la marche debout du bipède. Et deuxième question, deuxième partie, comment, hein. Alors, dans la première partie, où vous convoquez à la fois les mythes, les imaginaires, y compris d'ailleurs les fictions, y en a deux que vous évoquez. Alors, je voudrais que on en parle un peu parce que il y en a une, c'est Savinien Cyrano de Bergerac, qui est tout à fait passionnant. Parce que, en fait, vous dites que c'est une anthropologie, celle de Cyrano de Bergerac. Je rappelle que il publie l'histoire comique des États et empires de la Lune et du Soleil. Mmh. En fait, c'est deux bouquins en 1657.
Ouais, à titre posthume, oui.
Et à titre posthume, puisqu'effectivement, il est mort deux ans plus tôt. Hein. Vous dites que c'est une autofiction, vous rappelez que c'est une autofiction. Racontez-nous cette histoire. Qu'est-ce qui arrive à se dénommer Dircona, qui est en fait l'anagramme de Cyrano, hein, voilà, et qui rencontre les Sélénites. Hein. Alors racontez-nous l'histoire, parce que, y compris la fin, parce que c'est pas drôle la fin de Dircona.
Alors, Cyrano Bergerac est un type absolument génialissime, qui n'est pas du tout connu d'ailleurs pour cela. Il était ami avec Cassandi et compagnie, donc c'était quelqu'un qui était très versé dans la culture scientifique. Alors à l'époque, la science est surtout liée à l'astronomie. Et l'avancée de fiction, Cyrano de Bergerac, est tout simplement l'aventure de la science-fiction.
C'est ça. Ouais.
C'est aussi simple que ça. Et beaucoup plus tard, Pierre Boulle,
voilà, en écrivant le deuxième
à la planète des singes, voilà, en fait, reprend le récit de Cyrano Bergerac.
Sauf qu'on n'est plus sur la Lune, on est sur la planète Sauror.
Pour Cyrano, c'est sur la Lune, évidemment. Ouais. Et là, on est dans le peuple des Sélénites, donc Sélène, hein, la Lune, c'est la céleste, Sélène, bien sûr. Et là, en fait, il est absolument interdit de se tenir debout, parce que c'est considéré comme une attitude absolument arrogante et méprisante vis-à-vis des autres. Donc tout personnage qui se met debout donc subit un procès, de lèse évidemment quadrupède, qui est le mode de locomotion imposé par éducation d'ailleurs aux Sélénites.
Qui ont des corps humains, enfin qui ont des
qui ont des corps humains.
Ils marchent à quatre pattes.
Et ils marchent à quatre pattes, absolument. D'ailleurs, c'est amusant parce que au passage, ça nous rappelle un petit peu aussi comment on fonctionne. Hein. Vous savez, c'est l'histoire des enfants sauvages. Alors évidemment, il y avait Victor de l'Aveyron, mais il y a aussi pas mal de cas connus qu'évoque d'ailleurs Rudyard Kipling. En définitive, si vous n'avez pas autour de vous des personnes qui marchent debout, même si par l'évolution vous avez tout ce qu'il faut pour marcher debout, vous ne marcherez pas debout.
Donc, voilà. Ça rappelle le désir mimétique de Girard. Hein.
Exactement. Par contre, ce qui est amusant, c'est que lorsque... Alors, moi, peut-être que je suis un peu archaïque, là, mais par exemple, les films La Guerre des Étoiles, j'ai jamais pu supporter ce truc-là. Ils ont tous des tronches d'enfer, mais ils sont tous bipèdes. Mais c'est une stupidité
démon. Il est mignon, Chewbacca.
Ouais, d'accord, mais enfin, bon... Je ne sais pas comment, dans l'évolution, comment il a retenu celui-là. Bon, en attendant, c'est quand même... Et là, on voit effectivement comment la bipédie, lorsqu'on parle aussi de la bipédie, en fait que, quelle que soit la tête des personnages, le fait d'être bipède vous met dans la sphère de l'humain.
Oui, mais vous dites que c'est très compliqué, parce que vous...
Bien sûr.
Vous dites, même en français, le mot « se dresser » et « dresser », il y a quelque chose d'intéressant. Vous parlez du dompteur au cirque qui passe son temps à vouloir que les animaux
absolument
les soient sur deux pieds.
Alors, c'est l'inverse des terribles expériences du docteur Moreau, d'ailleurs. Hein. Et donc là, on voit bien, dans le cirque... Alors, Michel Pastoureau, au Moyen-Âge, grand auteur, merveilleux auteur.
Des couleurs et des
mythes. Alors, il parle beaucoup des mythes. Voilà, l'ours est quand même... une forme de réincarnation du démon. Et à un moment, il y a pas mal d'ours qui vont passer au bûcher, d'ailleurs, par rapport à cela. Alors, évidemment, on est dans les pas loin des Pyrénées, il y avait des montoirs douces, mais voilà.
Et pourquoi ? Parce qu'il tend à être bipède.
Parce qu'il a tendance à être bipède, effectivement. Donc, ça, voilà. Et seul l'homme à l'image de Dieu peut être bipède. Donc, voilà. Donc, les pauvres ours, ils vont payer les conséquences. Et au cirque, à chaque fois, on oblige de mettre les pauvres éléphants à vouloir se mettre debout, ou les panthères, ou les... Et donc, c'est amusant, ça veut dire quoi, ce spectacle de cirque, qui sont d'ailleurs de plus en plus interdits, comme vous le savez maintenant, hein, ça veut dire quoi, c'est de montrer qu'effectivement, mais regardez ces animaux, qu'est-ce qu'ils sont stupides, ils ne sont pas capables de se tenir debout, malgré l'aide des humains. Donc, ça, c'est une position, en fait, alors on trouve ça merveilleux dans l'accomplissement du dressage, etc., mais ces animaux souffrent énormément, mais en plus de ça, c'est derrière... Une position d'arrogance et de mépris vis-à-vis des animaux. Alors, Cyrano Bergerac, lui, c'est la première dystopie. Dans la dystopie, on inverse les choses. Et là, il nous montre qu'effectivement, vous, les humains, allez vous déplacer à quatre pattes, vous allez voir, ça ne va pas être drôle. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Et tout le génie de Pierre Boulle dans La planète des singes, il est là. Le livre sort en 1963, si je ne me trompe. Et en fait, il n'y a rien d'original dans le livre. Rien. D'ailleurs, on ne connaissait pas les chimpanzés comme on les connaît aujourd'hui à l'époque. Jane Goodall est à peine sur le terrain. Ce qu'il fait, tout simplement, comme Cyrano, c'est d'inverser les positions. Il met les grands singes à la place des humains, les humains à la place des grands singes. Et là, d'un seul coup, ça devient insupportable.
Et vous dites, quand on reprend le bouquin, la nouvelle de Pierre Boulle, la raison pour laquelle les grands singes contrôlent Ah oui. Les humains, ce n'est pas du tout ce qu'on a cru. Ce n'est pas une explosion atomique. C'est comme la franchise l'a développée par la suite.
Exact.
C'est une autre raison. Je vous laisse dire laquelle.
Alors ça, c'est intéressant parce que des adaptations cinématographiques, séries ou films, on en a...
C'est une franchise, hein, c'est une franchise
blockbuster. Mais aucun n'a repris
la vraie raison
du roman.
Ouais.
Et la raison du roman, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux des jeunes générations aujourd'hui, c'est qu'il faut aller dans la troisième partie, chapitre 17, si je ne me trompe. Là, nous avons notre héros, comme d'ailleurs chez Cyrano de Bergerac, qui est reconnu quand même dans son intelligence par les savants arrogants grands singes, notamment les orang-outans, et il arrive à l'académie. Donc il fait un discours à l'académie. Petite citation, c'est une reprise quasiment identique du texte de Kafka de 1917, alors c'est pas un singe à l'académie, mais c'est discours pour une académie, où là on est exactement dans la même situation. Et de fait, il arrive dans un laboratoire qu'on appellerait aujourd'hui de neurosciences, et nos scientifiques chimpanzés, notamment un peu bonobo, sont très heureux de lui montrer à cet humain, quoi, regardez ce qu'on a fait en science. Alors ils avaient chopé plusieurs femmes et hommes, dont une femme, qui est complètement anesthésiée, mais ils arrivent par un espèce de procédé que j'appelle bêtement de psychanalyse hypnotique. Donc, en tout cas, ils la font parler inconsciemment et elle dit ceci. Tout allait fort bien sur la planète Soror, donc la planète Sœur. Nous avions des machines qui produisaient les biens nécessaires et nous avions donc aussi domestiqué des grands singes pour voir au service donc, les plus attentifs et délicats autour de nous. Mais au fil du temps, nous avons été des actifs physiquement. Et également, nous avons été de moins en moins intéressés par les livres et la culture. Même les livres enfantins.
Il y a 61 ans que Boulle écrit ça. Hein.
Ouais. Et même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Donc, en définitive, il n'y a pas eu de coup d'État des grands singes. Il n'y a pas eu de revanche. C'est l'humanité qui, en fait, et aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter par rapport au dérèglement climatique, aux conflits qui arrivent ou qui sont déjà là, la question des biodiversités, bien sûr. Mais en fait, le pire danger, c'est le confort. Et le confort, effectivement, est un enjeu qui fait que déjà aujourd'hui, à défaut de marcher, à la fois d'activité physique, à défaut d'avoir des relations sociales, à défaut de ne pas avoir pas assez se cultiver, qui font que, d'ores et déjà, l'espérance de vie est en train de dégringoler à une vitesse assez vertigineuse dans la plupart des pays occidentaux. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Vous êtes venu en marchant, vous allez lire, c'est bon pour vous. Mais c'est quand même inquiétant. Et donc, et Pierre Boulle écrit ça en 1964.
Alors, votre livre, il traite tout autant aussi de l'état de l'art de la paléoanthropologie. C'est ça qui est tout à fait passionnant. Il y a une sorte de dialogue entre la problématique de la marche, hein, pourquoi, comment marche-t-on, et puis aussi, l'état de marche, pardon pour le jeu de mots, de la paléoanthropologie. Alors, je ne résiste pas à évoquer un passage tout à fait passionnant dans votre ouvrage à propos de ce que vous appelez la thèse sur les origines aquatiques de la bipédie. Vous dites que c'est totalement désopilant. Je vous cite, « Nous sortons donc bien du monde des eaux, mais au même titre que le cheval, le paresseux, le phoque, l'aigle ou le lézard. Hein » Vous dites, cette histoire de singe aquatique sauvé des eaux, elle vous fait totalement rire, et c'est pour vous l'occasion d'évoquer la pataphysique, chère à Georges Perec. Je rappelle que c'est Alfred Jarry donc, qui est l'inventeur du mot. Alors, je lis la définition de la pataphysique selon Perec. Si je dis que j'ai un frère et qu'il aime le fromage, c'est de la physique, dit Perec. Si je dis que j'ai un frère et qu'il n'aime pas le fromage, c'est de la métaphysique. Si je dis que je n'ai pas de frère et qu'il aime le fromage, alors là, c'est de la pataphysique. Bon.
Exact.
Et vous paraphrasez alors Perec à la toute fin de votre première partie, et je vous lis, citation de Pascal Pic, « Pour les origines de la marche debout, cela donne ceci. Si je dis que les ancêtres de l'homme se redressent dans les savanes, c'est de la science. Si je dis que les singes marchent debout dans les forêts, c'est de l'hérésie. Et si je dis que les ancêtres des hommes et des grands singes marchaient tous debout, c'est de la pataphysique. Et vous en arrivez à écrire ceci, à penser que seule la pataphysique peut sauver la paléanthropologie de la métaphysique. Autrement dit, l'ironie grinçante d'un Pérec et d'un Jarry pour fustiger en quelque sorte les diafoirus de la paléoanthropologie. Alors, explique-nous, c'est pas un règlement de compte, mais c'est quoi le débat là ?
En fait, la difficulté, c'est que très longtemps, au XXe siècle, hein, pas chez les grands fondateurs des théories de l'évolution, les Darwin, les Huxley, etc., ou les Haeckel et autres. Donc, à la fin du XIXe, XXe, eux, ils savaient fort bien qu'il fallait chercher les origines des bipédies. Vous voyez, déjà, je parle maintenant au pluriel. Les origines des bipédies, non pas l'origine de la bipédie. Mmh. Passant du « le » à « les », on met de côté la métaphysique. Donc là, c'est intéressant parce qu'eux, ils avaient dit qu'il fallait voir auprès des espèces les plus proches de nous. Mais ils avaient bien conscience que les espèces les plus proches de nous ne sont pas nos ancêtres, que nous avons par contre des ancêtres communs, ce qui n'est pas du tout la même histoire.
Le fameux Dac, on y viendra.
Ouais, le père Dac, oui. Mais... Dernier ancêtre commun, donc le Dac. Voilà, voilà. Et vraiment, c'est très curieux, j'arrive pas à comprendre d'où vient le retour, en fait, de ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces, donc d'Aristote.
Le scalisme.
Donc, le scalisme, qu'on appelle donc l'évolution scalaire, comme une échelle, donc graduelle, qui revient en force après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est très curieux. Et le copain s'est complètement plongé là-dedans. C'est très curieux. J'avais du mal à lui faire comprendre. Mais en définitive, moi, quand je suis arrivé à la fin des années 70 dans ce domaine-là, on disait l'homme descend du singe au singulier, une fois de plus. L'homme descend du singe au singulier. Hein, et j'ai levé le doigt. Je dis, mais attendez, c'est qui ce singe? Et mon travail, ça va être pendant 20 ans d'introduire l'éthologie dans le champ de l'anthropologie. Et ça, c'était quand même très compliqué, parce qu'on est dans une culture qui sépare la nature de la culture, l'homme de l'animal, etc. Et l'inné l'acquis. Donc, à partir de là, je commence à travailler là-dessus. Et il est très clair que nous avons en plus une avancée conceptuelle et théorique dans les théories de l'évolution très importante dans les années 80, avec quelque chose qui évoque l'architecture. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un article dévastateur de 1979 par Stephen Jay Gould, peut-être vous connaissez plus ou moins bien son nom, et de M. Lewontin, un très grand bonhomme des théories de l'évolution. Et ça s'intitule, je vous fais le titre en français, « Les écoinçons de la cathédrale San Marco et la théorie panglossienne des origines de la bipédie ».
Alors qu'est-ce que c'est les écoinçons?
Alors, pangloss, vous connaissez?
Oui, bien sûr.
Pangloss, c'est « tout est bien dans le meilleur des mondes possible ». Voilà. Donc, OK. Et les écoinçons, ce sont en fait, quand vous visitez une cathédrale, Saint-André, vous avez donc des arches. Donc ces arches servent à soutenir évidemment l'étage supérieur. Mais entre les arches, de manière passive, vous avez tout un espace qu'on va remplir et c'est les coinçons. Alors si vous êtes panglossien, vous arrivez devant la cathédrale San Marco de. Il y en a une à Florence aussi, mais là c'est en l'occurrence celle de Venise, où là. Vous dites, ou je suis entendu, ah, c'est formidable, les architectes ont pensé à mettre des écoinçons pour que les artistes puissent mettre des sculptures ou peindre. Pff, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et le grand génie, qui peut vous sembler paradoxal d'ailleurs, c'est que les structures ont des contraintes et que ces contraintes peuvent donner des innovations. Ça peut vous sembler paradoxal. Les contraintes peuvent donner des innovations. Alors, qu'est-ce que ça donne pour notre histoire des origines des bipédies? Eh bien, comme l'avaient vu nos grands pionniers, il y a plus de 150 ans maintenant, il fallait observer les grands singes, qui sont les grands singes hominoïdes, c'est-à-dire qui nous ressemblent, et qui ont une particularité que nous avons toutes et tous, c'est que, avant le dîner, je vous fais une démonstration d'anatomie comparée. Vous prenez une tranche de chien ou de cheval. Vous avez en fait une cage thoracique qui est profonde de la colonne vertébrale au sternum et qui est étroite d'un flanc à l'autre avec des omoplates sur le côté. Nous autres, les grands singes, vous faites une tranche, pareil. Là, au contraire, nous avons une cage thoracique étroite d'avant en arrière. Alors, évidemment, sur moi, ce n'est pas la première évidence, mais enfin...
Non, mais ne me montrez pas non plus, c'est pareil.
C'est pareil, OK, on est tous en même. Voilà. Étroite d'avant en arrière, on a de larges épaules, longues clavicules, les omoplates dans le dos, et on fait ça. Alors ça, ce n'est pas apparu en mai 68. C'est apparu il y a 13 millions d'années, quand des grands singes, parmi nos ancêtres hominoïdes, acquièrent une plus grande taille corporelle. Or, les arbres ne vont pas déployer des branches plus grandes pour qu'ils se déplacent de manière tranquille. Et à partir de là, vous avez deux options quand vous avez une grande taille pour se déplacer dans les arbres. Soit vous faites comme les paresseux, et pour la bipédie, ce n'est pas gagné. soit vous vous suspendez. Et la suspension, c'est la verticalité, le rapport par au monde. On a découvert, au moment où j'écrivais ce livre, qu'effectivement, nous avons, comme vous savez, 86 milliards de neurones, mais on en a encore plus dans le cervelet. Donc là, on a une mécanique, effectivement, parce que se tenir debout, c'est très compliqué. Donc, et derrière cela, effectivement, quand un grand singe, chimpanzé par exemple, monte dans un arbre, ça s'appelle le grimper vertical, il avance à jambe gauche avec le bras droit et inversement. Et c'est exactement comme ça que nous marchons. Et en définitive, l'aptitude à marcher debout n'est pas apparue parce qu'il fallait marcher debout. Je rappelle que la sélection naturelle sélectionne, elle ne crée rien. Elle sélectionne. Et pour qu'elle sélectionne, il faut qu'il y ait la diversité, de la variation. Voilà. Donc c'est ça. Il faut d'abord production de diversité, de variation, et ensuite sélection ou pas. Et de fait, lorsqu'on regarde aujourd'hui les espèces les plus proches de nous, comme les bonobos, hein, ou les autres chimpanzés, mais les bonobos, eux, sont plus arboricoles, ils vivent dans des forêts plus denses au Congo, et eux sont beaucoup plus aptes aux bipédies.
Parce qu'ils sont plus graciles aussi.
Ils sont plus graciles également, alors que les chimpanzés, en plus les gorilles, sont plus mastocs, et eux ont tendance à appuyer, mais ils marchent aussi debout. Donc, en définitive, ce qui se passe, c'est qu'on parle de répertoire locomoteur, pardon, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'on a une plasticité, c'est le terme, plasticité, donc, morphologique. Et les attitudes à marcher debout, il suffit d'observer les grands singes. Lorsqu'ils sont dans les arbres, évidemment, ils ont les pieds sur des branches, et des fois, donc, on appelle ça la bipédie assistée, ils s'accrochent. Alors, après, ça va être la grande aventure des australopithèques, qui, comme vous le savez, comme Lucie qu'on a cité, avaient encore d'excellentes aptitudes à se déplacer dans les arbres, qu'on appelle l'arboricolisme. Mais alors après, là, c'est Yves Coppens qui est en évidence, hein, les environnements se fractionnent. Ça, évidemment, Yves Coppens, ça a été très important pour ces théories-là. Et ils auraient pu se remettre à quatre pattes. Mais l'autre option, ça a été de se dire, ah, il y a déjà des aptitudes à marcher debout, et elles, par contre, vont donner un avantage et vont être se déployer jusqu'à notre bipédie, qui est absolument exceptionnel. Et ça, évidemment, c'est que le genre homo. Donc, voilà, tout ceci est arrivé dans les années 80, effectivement, avec les connaissances, cette fois-ci, sur les comportements, notamment locomoteurs des grands singes. On commence à bien les connaître à cette époque-là, parce que tout le monde est sur le terrain, mais également parce que nous avons des avancées théoriques importantes dans les théories de l'évolution. Donc, vous voyez, dans science, on avance évidemment avec les concepts, les théories, mais également les observations et les expérimentations. C'est un très bel exemple. Et donc, on s'est pas bien marché debout parce qu'il fallait marcher debout, mais parce que déjà, ça préexistait d'une certaine manière, eh bien, c'est déployé. Et notre bipédie, vous savez, elle est absolument exceptionnelle. Tous les ans, là, vous allez voir dans les magazines de l'été. Alors, ils font toujours c'est une espèce de marronnier qu'on a tous les étés. Ah ouais, le guépard court plus vite que nous, le dauphin nage plus vite que nous, le chimpanzé est plus doué dans les agrès en gymnastique. Ouais, d'accord. Et puis, c'est tendance à dire, alors ça, ça nous est bien rigolé avec Michel Serres, de dire qu'en fait, c'est une vieille, c'est la légende d'Épiméthée et de Prométhée. Ah ben, les humains, ils arrivent comme ça, qu'ils ont été créés ou quel que soit le mythe. Ah ben, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de crocs, ils courent pas vite, ils n'ont pas de carapace. Voilà, on arrive comme ça, on est un peu paumé dans cette nature hostile, et donc, pauvre Épiméthée qui nous donne le feu. Voilà. C'est pas passé comme ça. En fait, dès que les humains sont arrivés, des premiers Homo erectus, alors qu'on a une bipédie quasiment comme la nôtre, là, je peux vous dire, les prédateurs se sont dit, les emmerdements commencent. Parce que effectivement, nous sommes une espèce extraordinairement agressive et surtout avec les outils lancés. Donc, ça ne veut pas dire que face à un lion, on a une chance. Non, on n'a aucune chance. C'est même une panthère. Mais déjà à deux, le problème, c'est pour les autres. Donc, là, derrière cela, vous voyez, ça a beaucoup changé. Et en définitive, on pensait que nous n'avions pas du tout, comme toutes les espèces, quelques adaptations qui nous donnent un avantage dans le cadre de la vie, dans les communautés écologiques. Ben si, on en a un, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on a retrouvé justement dans les années 80 également, et que je raconte, c'est l'endurance. Nous sommes les espèces les plus endurantes pour jamais exister sur cette Terre.
Ça, c'est passionnant, parce que vous dites que...
C'est absolument incroyable. Alors,
après, vous prenez même les exemples des super trails, là.
C'est vous dites, dingue, quand même, qu'on y pense.
Une personne de 50 ans peut l'emporter, il y a des exemples très précis, sur le jeune et bel athlète très musclé.
Hommes et femmes, d'ailleurs.
Oui, hommes et femmes, voilà. Hein. Mais troisième qualité du prédateur dont vous dites, là, les autres se sont dit, oh là là, celui-là, il faut se méfier, c'est très important aussi, c'est la coopération.
Mais bien sûr.
C'est vous qui le dites, page 208, endurance, capacité d'attaquer et de se défendre en balançant des objets, et la coopération. Mais je voudrais revenir sur un aspect au niveau de la recherche. Vous évoquiez les découvertes des années 80. Dans les années 2000, il y a trois vedettes là, qui vont être trouvées successivement. Hein. Toumaï, qu'on connaît bien en France, parce que Michel Brunet, son équipe de chercheurs à Poitiers, puis en plus Jacques Chirac était tombé amoureux de Toumaï, alors tout le monde connaissait Toumaï, hein, le crâne de Toumaï. Bon. Deuxième, Aurorine, je ne sais pas si je prononce bien.
C'est ça. Hein.
Ça, on le découvre du côté du Kenya.
C'est au Kenya, puis,
Hardy. Enfin, c'est son diminutif, c'est Hardy, c'est ça.
Alors, ça, c'en est un autre encore. Alors,
c'est un troisième.
En Éthiopie.
Alors, c'est en Éthiopie. Alors, ces trois-là, c'est plutôt trois crânes.
Ah non.
Mais vous dites, en fait, on s'est plutôt intéressé d'abord aux crânes, et puis après, on va se mettre à s'intéresser au squelette et aux pieds.
Alors, ça, c'était la grande aventure également. Merci à Yves Coppens, d'ailleurs. Parce que, vous savez, je l'ai rappelé, dans notre culture, on privilégie l'intellect, donc le crâne, par rapport au reste du corps. Donc c'est pour ça qu'on s'était complètement planté, évidemment, sur les origines des bipédies. Et un jour, en discutant avec Yves, il me dit, vous savez, Pascal, il va falloir qu'on fasse quand même super gaffe, parce que je m'aperçois qu'on a donné toutes les thèses sur le crâne à des hommes et les thèses sur le squelette locomoteur aux filles. Sauf que les filles en question ne sont pas démontées. Et c'est elles qui ont démontré qu'en définitive, bien sûr, tout ça avait commencé par les pieds avant le développement du cerveau. Ça, c'est très important. Et c'est important que vous citiez ces trois crânes parce que Toumaï, pour l'instant, c'est lui qui tient la corde, si je peux me permettre.
Il faut nous dire depuis à peu près combien de temps
Toumaï, oui, 7 millions d'années.
7 millions. Hein.
7 millions d'années. Alors, lui, il vient du Tchad.
Vous dites donc, que ça fait 250 000 générations.
C'est énorme. Hein. Aurorine.
Donc, vous me confirmez le chiffre, c'est ça?
Ah oui, absolument. Alors, Aurorine du Kenya, donc Toumaï, 7 millions d'années. Aurorine, 6 millions d'années. Alors, Aurorine, par contre, lui, Toumaï, on n'a pas beaucoup d'éléments de squelette locomoteur, mais on a le crâne, et puis la base du crâne, en fait, dans son anatomie, reflète les capacités à marcher debout ou pas. En plus, c'était ma thèse, donc là, je suis sur un terrain que j'aime bien. Aurorine, lui, par contre, il a un fémur dément, il marchait très bien debout. Est-ce qu'il courait? C'est pas certain. Par contre, au niveau de la tête, c'est rédhibitoire. Là, il a vraiment une trop sale gueule, il ne peut pas être à l'origine de la ligne humaine. Ardipithecus, surnommé Hardy en Éthiopie, un peu plus récent, 3-4 millions d'années.
Un gosse.
Lui, c'est intéressant.
Un gamin.
Il marche debout, il a l'attitude. Et en plus de ça, c'est intéressant. C'est l'ancêtre des chimpanzés. Donc l'évolution, ça n'a pas été ça. On s'aperçoit qu'en fait, les bipédies étaient, en définitive, dans le berceau de toute la grande famille des grands singes qui marchent debout, qu'on appelle les hominidés, que nous allons développer avec notre bipédie extraordinaire. Okay, à travers les australopithèques et le genre humain, les chimpanzés et les gorilles vont le perdre, les bonobos l'ont plus ou moins conservé. Et donc, vous savez, c'est tout le problème dans les sciences de l'évolution. Moi, j'ai été éduqué comme ça. On est parti de la fin, c'est-à-dire le triomphe de Sapiens, et puis après tout, on s'est dit, on va aller voir ce qui se passe un petit peu avant. Moi, ce que j'ai fait dans les années 80, parce que justement, les avancées théoriques de l'évolution nous permettent de faire cela, c'est que je suis parti du pied de l'arbre. Et là, effectivement, la perspective est radicalement différente. Et c'est aujourd'hui que, comme ça, travaillent tous les évolutionnistes. Donc, en définitive, nous n'avons pas acquis les bipédies, nous avons développé, et les autres les ont plutôt perdus. Donc voilà, ça change complètement la perspective. Et notre bipédie, vous savez, ça va vous surprendre, parce que je vais vous dire, certainement, nous n'avons qu'une seule allure. Nous n'avons qu'une seule allure. On a toute la petite musique d'un cheval qui se déplace. Un cheval qui se déplace au pas. Tac, 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 tac. Le trot, tac, 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 tac. Galop, tac, grec, tac, grec, tac, grec. Allure à trois temps. Et nous avons que le trot.
Le trot, c'est ça, vous dites.
Un pied toujours au sol, c'est la marche. Une phase suspendue, c'est la suspension. Et moi, ce qui me fascine, parce que je suis fasciné par les sports et la danse...
Et vous dites, vous rappelez comment vous avez... travailler, collaborer à une chorégraphie, c'est
absolument passionnant. Qui reprend d'ailleurs. C'était une vingtaine d'années avec une compagnie de Lyon. Nous avons créé, ça s'appelle Danser avec l'évolution, avec un très beau texte. Alors, plutôt que d'arriver avec un PowerPoint comme la plupart des conférenciers, j'arrive à des danseurs et des danseuses, c'est quand même très smart. Ça coûte plus cher quand même. Mais et là, effectivement, c'était... Je rappellerai toute ma vie de cette scène. Nous sommes dans un café avec le chorégraphe, Michel Allais et Gaillant, et il était gêné. Vraiment gêné. Grand chorégraphe de danse contemporaine. Il dit, tu sais, je suis embêté. Tu sais, l'histoire du singe qui se redresse. Mais je lui dis, mais t'as raison, ça n'a pas été ça. Et ce type, il fait plus d'1m90, c'est un très grand danseur. Je le vois se lever, il fait tomber la chaise, il part dans le restaurant, il revient. Mais oui, t'avais raison, c'est ce que je chantais dans mon corps. Alors, c'est pas une démonstration scientifique, je vous l'accorde. Mais quand même, c'était un beau moment. Et nous avons fait une archéologie vivante, donc du corps. Et les danseurs m'en veulent la mort. Parce que, vous savez, toute la danse classique, c'est quoi ? Élever le corps. C'est de sortir des contingences terrestres. C'est s'élever. C'est de fin. C'est... Et là, je l'ai ramené vers le sol. Mais vous dites comme le fait le hip-hop, etc.
Vous dites bien que Merce Cunningham, que
absolument. Que voilà, toute la danse contemporaine revient vers le sol. Et pour les danseurs, c'est extrêmement dur.
Y a un point,
donc on a travaillé là-dessus et c'était et le spectacle reprend. Je suis très content et je suis obligé de maigrir parce que c'est vrai.
Il y a
20 ans plus tard, c'est bizarre ça. Les vêtements rétrécissent sur les cintres.
Il y a un point que je voudrais qu'on évoque avant de terminer, parce que malheureusement, vous écouterez pendant des heures. Heureusement.
Pourquoi malheureusement ?
Non, malheureusement, le temps passe. Malheureusement, le temps passe. Et on vous écouterait pendant des heures. C'est un point qui est très, très, très émouvant. C'est page 214. On est plutôt à la fin du texte. Vous abordez donc un aspect peu connu que vous nommez la malédiction féminine de la bipédie. Et vous dites que, je vous cite, que la belle bipédie a failli causer notre extinction. Et depuis 2 millions d'années, les femmes souffrent comme des damnées quand elles mettent un enfant au monde. Et vous constatez plus loin, page 221, décidément, la longue marche de l'humanité et sa bipédie particulière est une course d'obstacles à la fois naturelle et culturelle pour les femmes. Vous pouvez nous développer ce point, puis on terminera par une note plus gaie. Ensuite, c'est sur les relations sexuelles en partant des pratiques des bonobos.
Mais pour le coup, vous écoutez jusqu'au bout. Non.
C'est ça, faut qu'on nous arrête dans le débat.
C'est là. C'est là qu'il se passe une chose tout à fait particulière pour la lignée humaine. Alors ça, que là, pour le coup, c'est que la lignée humaine. Nos ancêtres Homo erectus, d'il y a 2 millions d'années en Afrique, inventent la coévolution bioculturelle. Nous héritons des australopithèques au sens large d'une bipédie extraordinaire qui va se concrétiser avec les premiers Homo erectus. Mais en même temps, nous autres, les humains, nous sommes capables de nous adapter en transformant nos environnements, c'est-à-dire par nos contextes techniques et culturels. Donc nous héritons d'une plasticité morphologique, qui est la taille et la forme, d'une plasticité physiologique, c'est-à-dire les fonctions du corps, et cognitive, absolument extraordinaire, même si les chimpanzés, je les adore, ils sont superbes, mais franchement, nous, on est vraiment très bons. Hein. Mais en plus de ça, nous sommes capables de transformer nos environnements. Et de ce fait, c'est pour cette raison que seules les espèces humaines ont été capables de s'installer dans tous les écosystèmes. Tous les écosystèmes, il n'y a que nous. Alors, on a emmené les chiens parce qu'ils ont été avec nous, eux, ils ont emmené leurs puces, bon, ok. Mais néanmoins, c'était avec nous. Et là, il va se passer une chose étonnante, c'est l'invention de la cuisson. La cuisson, c'est une prédigestion, comme vous le savez, et très clairement, on voit apparaître une réduction de la taille des dents à partir de cette époque-là. Alors que les australopithèques ont des dents, mais c'est dément, c'est un cauchemar de dentiste. Hein. C'est mâche ou crève. Hein. Okay. Et là, on ne peut pas avoir des corps, parce que nous sommes des espèces de très grande taille, ça peut vous surprendre ce que je vous dis. Hein. Parmi les 200 espèces de primates, le plus gros, c'est le gorille, après, c'est nous. Bon, maintenant, les Américains... Bon. Mais nous sommes des espèces de très grande taille, très très grande taille. Et on ne peut pas avoir un corps comme le nôtre, avec en plus un gros cerveau. Le cerveau, c'est un scandale écologique. C'est 20% de notre métabolisme quotidien. Et en plus, quand vous êtes jeune, les gamins, c'est pour ça qu'ils bouffent tout le temps, les gamins. 60%. Hein, tartine, goûter, regoûter, tartine. Hein, le cerveau, là, il a besoin de bouffer. Et en plus de ça, nous avons une physiologie de coureur et on a énormément d'activité physique. On ne peut pas tenir sans la cuisson. C'est absolument impossible. Et là, ça va favoriser le développement du cerveau. Alors, d'un côté, par voie de sélection naturelle, nous acquérons cette bipédie fabuleuse avec notamment un bassin qui se referme vers l'avant, une condition biomécanique absolument superbe.
Mais de l'autre, on prend la
Mais d'un autre côté, pour une raison indépendante, nous, on a le cerveau qui se développe. Mmh. Et là, ça va coincer. Et donc, effectivement, on a fait disparaître à cause de ça. Et ce qui est terrifiant, c'est que là, mesdames, je vais vous faire peur, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est que la taille du cerveau est corrélée à la durée de gestation. La taille du cerveau adulte, la taille du cerveau du nouveau-né, bon, c'est pas comme du papier à musique, mais c'est très corrélé. Et la durée de gestation. La gestation devrait durer, en fait, 19 à 21 mois chez notre espèce. Mais là aussi, vous savez, en sciences humaines, ils ne connaissent pas les grands singes. J'entends beaucoup les médecins, les pédiatres, homophobes qui disent « le petit bébé naît immature ».
Prématuré, même, on dit.
Mais même prématuré. Ils n'ont jamais accouché, ces mecs-là. Le petit bébé humain est énorme. Il est énorme. Maman gorille, qui est quand même plus costaud que toutes les mamans qui sont là, qui ont été mamans, a mis au monde, après 8 mois et demi de grossesse, un petit gorillon qui fait 1,7 kg avec un cerveau de 250 cm3. Le petit bébé humain qui arrive 2 semaines plus tard, de certaine manière, il arrive, il fait 3,7 kg en moyenne, le double, et avec un cerveau 2 fois plus gros. Et après la naissance, c'est ce qu'on appelle l'altricialité secondaire, le petit bébé va suivre une croissance comme s'il était encore in utero. Ça, c'est tout à fait unique. Alors, évidemment, ça change notre sexualité, on va en parler forcément, mais évidemment, le rapport à l'enfance, le rapport à la solidarité, ce qu'on appelle aussi donc l'alterparentalité, c'est-à-dire que les mamans doivent avoir une aide de la part de la famille ou du mari, ça, si vous savez, c'est pas toujours gagné, hein, ou du compagnon, etc. Donc, tout ceci a été un bouleversement qui a fait que, comment est arrivée cette altricialité secondaire, on ne sait pas, mais en tout cas, par la suite, le cerveau va continuer à augmenter en taille relative et absolue dans la lignée humaine, mais la durée de gestation va se stabiliser autour de ces 8 mois et demi avec ce mécanisme très particulier, l'altricialité secondaire. Mais aujourd'hui encore, donc, on sait ce qu'il en est de la difficulté de l'accouchement encore dans nos populations chez nous sapiens. Mais si ça suffisait pas, il a fallu que les théologiens, les médecins et les philosophes en rajoutent une couche pour condamner les femmes en disant que c'est le pécheur. Enfin, bon, voilà, vous connaissez tout le truc.
On va terminer, parce que je l'avais dit, sur la dimension sexuelle, puisque vous venez un petit peu d'en parler aussi sur l'alterparentalité et pourquoi en particulier les femmes ont quand même besoin aussi que les hommes prennent leur charge de parents et de pères. C'est pas évident, hein, on le sait bien. Vous dites, les humains ne sont pas les seuls à avoir des relations sexuelles face à face, anobinem, dites-vous. Les observations récentes sur les bonobos et les chimpanzés, alors vous avez une formule tout à fait amusante, vous dites, montre qu'il varie beaucoup les positions, les gestes et les plaisirs, et vous ajoutez, je vous cite, nos acrobaties amoureuses, comme notre bipédie, viennent aussi de la verticalité des corps dans les arbres, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire que la diversité des pratiques sexuelles vient du fait de s'accrocher aux branches, je pourrais rajouter, ou de grimper au rideau, mais ça, vous le faites pas. Vous précisez que, contrairement à une idée reçue, le découplage entre l'activité sexuelle et la fonction de reproduction n'est pas une exclusivité de notre espèce. Et vous dites que un tel comportement viendrait d'une particularité assez peu répandue chez les mammifères et même chez les singes, c'est l'investissement parental des hommes. Alors, page 223, je vous lis. Vous dites, si les femmes ont besoin de soutien, elles doivent l'obtenir des autres femmes qui ne sont pas apparentées ou des hommes. Comment s'attacher à l'implication des hommes en exigeant qu'ils fassent la cour ou en faisant l'amour? Et vous dites, nu ou paré, c'est la marche, plus précisément la démarche qui érotise le corps. C'est assez passionnant, ça.
Ah ben oui, ça marche tout le temps, hein. Qu'à le dire. Oui, d'ailleurs, franchement, les islamistes ne se sont pas trompés. C'est cacher le corps de la femme qui bouge, les empêcher de bouger et mettre des vêtements, on ne voit pas le corps bouger. Toutes les oppressions sur les corps des femmes jouent sur le mouvement. Les petits pas ridicules des japonaises ou des chinoises, les pauvres, elles l'ont pas choisi, on les a imposés. Hein. Et donc, on voit bien que toutes les grandes marcheuses que je cite, hein, évidemment, on pense à George Sand, il y a beaucoup d'autres, il y a Alexandra David-Nel,
Simone de Beauvoir, contrairement à Jean-Paul Sartre qui était plutôt lui posé sur.
Ah lui, il était. Oui, je peux revenir sur Audiard j'ai toujours adoré les intellectuels qui parlent des ouvriers, mais qui.
On conclut.
Et donc là, en effet, la marche, et d'ailleurs les hommes et les femmes, on l'entend, ça joue un rôle extrêmement important, ça dit beaucoup de choses. Et on le voit bien que notre état psychologique, qu'on soit heureux, qu'on soit malheureux, qu'on soit soucieux ou pas, se traduit évidemment dans notre marche et notre démarche. Là, il est vrai que notre espèce a une particularité, c'est le découplage total, qu'on a déjà chez les bonobos et un petit peu chez les chimpanzés, entre l'activité sexuelle effectivement la reproduction. On a un très faible taux de reproduction, comme vous le savez, hein, et aujourd'hui, la sexualité, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Lorsqu'on repense, Michel Serres en parlait en citant Bossuet ou d'autres, quand on parlait des femmes, effectivement, au 19e siècle, au 18e siècle, il disait... vous avez 17 ans, vous avez 10 ans pour séduire et ensuite 10 ans pour préparer votre mort. Donc, en fait, 45 ans, c'était réglé. Regardez quand même ce qu'a vécu la génération des baby-boomers en espérant que ça continue. Moi, je m'en souviens, il y a encore une vingtaine d'années, on ne parlait pas de la que des hommes, une activité sexuelle à 50 ans, 60 ans, etc., se ressemblait, bon, s'ils sont en forme dans leur jeu. Mais en fait, l'âge canonique, c'était 40 ans. On pensait que les femmes, c'était terminé, etc. Et aujourd'hui, regardez l'épanouissement des femmes de 50 ans, de 60 ans, etc. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'évolution. On peut terminer là-dessus, parce que, en fait, l'évolution est beaucoup plus généreuse qu'on l'imagine. On a parlé des origines des bébés. Les aptitudes à marcher debout ne sont pas arrivées parce qu'il le fallait, mais dans la plasticité d'un répertoire locomoteur. Et regardez quand même comme cette évolution qui est la nôtre, surtout depuis un peu moins d'un siècle, sur nos conditions de vie, la médecine, le travail, les lois sociales, les libertés, etc., etc., en fait, permettent d'offrir à des hommes et des femmes de 50 ans, de 60 ans, la capacité de s'aimer à tous les âges, sans se préoccuper des questions de reproduction. Aujourd'hui, les petits-enfants découvrent pour la première fois des grands-parents qui sont amoureux et qui s'aiment. C'est quand même beau, l'évolution, non ?
On a envie de marcher avec vous longtemps. Merci beaucoup, Pascal Pic. Merci.